Les petites histoires font les grandes histoires. Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région, avec Petites et Grandes Histoires de la Basse-Marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des Petites et Grandes Histoires de la Basse-Marche que j'ai intitulée aujourd'hui « La chouette et le hibou en Basse-Marche ». Pour les textes, j'ai fait appel aux ouvrages et articles suivants. Paul Lavergne, son recueil « Le Zodiac et la ville » et « Récits de l'ancien temps ». Paul Bruzon, « Simple histoire de Montverger ». Charles Sylvestre, « Au soleil des saisons et pleine terre ». Valérie Traqui, « Les oiseaux de nos jardins ». Daniel Gillardot et Stéphane Trouba, « La chevêche d'Athéna » dans le bulletin d'Adrier, « La maisonnée ». Et Louis Peignot, Bergère, éternelle bergère.
Petites et grandes histoires de la Basse-Marche.
Le grand-duc au nez de poivreau attend le clair de lune pour lancer des signaux ornés de trémolos. Ouloulou, ouloulou. À la chouette à lunettes, en robe violette qui souffle en son pipeau sur la tour à créneaux. Et dans une pirouette lui répond à tue-tête « Ouh là là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ouh là là, ouh là là !» C'était un poème de Paul Lavergne. En voici trois autres. Le hibou, fantôme, pour marcher dans un grenier à pas lourds de cuirassiers, titubant aux embardés de ses bottes éculées. La chouette. La chouette douairière est à sa croisée en robe légère en train de poser. Coiffée à la mode de Marie Stuart, elle met en code l'éclat de ses phares. Portrait peu flatté, ses yeux au bar noir s'accordent avec son nez de pochard. Et encore la chouette, griffue comme un dragon, voyante extra lucide, dont l'ombre elle décime les rats et cervelés. Le campagnol gavé, sa chasse digérée, la voici agitée ainsi qu'une bécasse en une tour cloîtrée. D'un solfège vibrant, sans pause ni virgule, en l'étroite cellule où éclate son chant, elle geint et ulule, tandis que déambule la lune noctambule.
Ce sont les mères des hiboux qui désiraient chercher les poux de leurs enfants, leurs petits choux, en les prenant sur les genoux. Leurs yeux d'or valent des bijoux, leur bec est dur comme cailloux, ils sont doux comme des joujoux. Mais aux hiboux, point de genoux. Votre histoire se passait où? Chez les Zoulous, les Andalous, ou dans la cabane au bambou, à Moscou ou à Tombouctou, en Anjou ou dans le Poitou, au Pérou ou chez les Manchous, ou pas du tout, c'était chez les fous.
Dans « Simple histoire de Montverger », Paul Bruzon nous explique la place et le rôle du hibou dans le verger. Les dangers auxquels s'exposent les ravageurs de nos fruits ne viennent point seulement du sol. À la vigilance des rapaces amis du soleil, la nuit substitue celle des siens, les hiboux. La hulotte, autrement dit le chat-huant, les frais et la chouette habitent et protègent l'enclos. Le chat-huant s'appelle ici Jean des Bois. Nos aïeux, d'abord les faux-sauniers, puis par la suite les gars de Monsieur de Charette, avaient adopté comme signe de ralliement son cri sinistre. Le surnom nous en est resté, sobriquet par lequel on désigne encore dans la plaine et dans le marais les gens du bocage. Le mot « chouan » n'a pas d'autre origine. Jean des Bois ulule, la chouette chieule. À la vérité, je ne crois pas qu'il y ait dans le domaine des sons quelque chose de plus lugubre. On dirait l'alternance d'un appel d'outre-tombe et d'un rire diabolique. Malgré les portes closes, un frisson d'inquiétude pénètre dans les fermes. Les vieilles femmes se signent. Funeste présage, disent-elles. Les hiboux ont la réputation d'annoncer la mort. Certains récits colportés du lavoir au coin de l'âtre accréditent cette fâcheuse légende dans l'esprit naturellement superstitieux de nos paysans. La plupart d'entre eux n'en veulent point démordre. Mal conseillés par la crainte, ils ont voué aux oiseaux de nuit une injuste haine. J'en sais qui prennent plaisir à les torturer. Quand le laboureur attrape la hulotte ou les frais, il a conservé dans maintes régions l'odieuse habitude de les crucifier sur la porte des granges. Ainsi pense-t-il conjurer d'obscurs maléfices. Les oiseaux de nuit sont laids, grotesques même. La nature les a doués d'une voix désagréable, même effrayante. Nous sommes d'accord. Est-ce une raison pour méconnaître leur service ? N'en déplaise à la calomnie soutenue par la bêtise et par l'ignorance quand Jean des Bois et sa commère la Chouette élisent domicile aux alentours des demeures humaines, ce n'est point pour nous apporter de funestes messages, mais pour exercer sur nos vergers une surveillance vigilante et toujours efficace. Dis-moi ce que tu manges et je saurai ce que tu vaux. Si nous étions toujours assez sages pour poser cette question à tous les animaux qui daignent se rapprocher de nous, la réponse des deux méconnus aurait vite fait de les réhabiliter. La nuit est obscure, un croissant de lune mince comme un coup d'ongle verse à la terre trop peu de clarté pour pouvoir combattre le règne absolu des ténèbres. L'écran noir des feuillages arrête le regard indiscret des étoiles. C'est l'heure choisie par la basse pègre des rongeurs pour envahir le verger. Vont-ils le saccager impunément ? On pourrait le craindre si le chat-huant et l'effraie manquaient à leur devoir quotidien. L'un et l'autre, le chat-huant et l'effraie, entrent en scène. L'aviateur au monoplan silencieux survole son secteur. Rien n'échappe à ses yeux phosphorescents. Aucun bruit que ne perçoivent ses oreilles emplumées. Une ombre dans l'ombre, l'imperceptible sillage d'un corps vivant sur la terre obscure, le crissement menu d'une griffe ou d'une dent. Alors, ouvrant ses serres crochues, machine à tuer dont l'étreinte n'a jamais pardonné, il exécute un audacieux virage et ses grandes ailes battent sur un rythme de triomphe. Demain, si nous inspectons le pied de l'arbre sur lequel il va dîner, nous y retrouverons les reliefs immondes de son repas, une boule de feutre sanglant autour des os broyés d'un squelette. Ces débris régurgités par Jean des Bois ou par sa commère la Chouette signent leur droit à notre reconnaissance. Grâce à eux, les fruits sains, humides de rosée, brillent encore au soleil levant. Voici comment, dans « Au soleil des saisons », Charles Sylvestre nous décrit la Chouette. La Chouette des Bois propage depuis bien longtemps une sourde terreur dans nos campagnes. On la regarde comme un oiseau fatidique et de sinistre présage. Elle ne déchire pas seulement la nuit de ses longues plaintes, mais les grands espaces des légendes et des contes paysans. Sa grosse tête ronde, sa figure plate, aux larges prunelles arrondies, au bec jaunâtre et crochu, lui donne un air de savante redoutable, qui porte toujours des besicles, scrute sans cesse les dangereuses ténèbres. Sa robe grisâtre semble marquée de signes cabalistiques parsemés de larmes. Quand elle volette autour des maisons villageoises, son cri réveille en sursaut les dormeurs et leur souffle une peur indéfinissable, un vent de vague malheur qui s'avance. On voit l'ombre de ses ailes silencieuses au chevet du mourant, au berceau du nouveau-né. Elle semble mener l'amour et la mort dans l'âme craintive et méfiante des laboureurs. Mais elle n'est pas malfaisante. Le cri qu'elle lance dans le soir d'hiver n'appelle ni la ruine, ni la douleur. Elle ne recherche pas le voisinage des hommes, elle vit au fond des bois, pond ses œufs blancs et moirés dans un nid qu'elle a caché au creux d'un vieil arbre. On ne dira jamais assez qu'elle est très utile, en dévorant des rongeurs et des insectes innombrables. Loin de la détruire, il importe de la protéger. On l'approche difficilement, elle est farouche et solitaire, mais le superstitieux qui la charge de ses angoisses et la tient pour une porteuse de tristes sorts la pourchasse et la guette dans la nuit. S'il arrive à l'abattre d'un coup de fusil, il pense que la menace suspendue s'abat aussi. il crucifiera sur le portail de sa grange l'innocente ainsi qu'une horrible prophétesse. Il aura la sombre joie d'insulter longtemps son cadavre écartelé comme s'il pouvait éloigner ainsi la mauvaise fortune.
Et grandes histoires de la basse marche.
Ces textes introductifs nous tracent le contenu de notre émission. Qui sont ces oiseaux de nuit? Qu'en est-il des éléments symboliques de la chouette et du hibou? Et quel est le rôle réel de la chouette et du hibou? La chouette et le hibou sont tous les deux des rapaces munis de becs crochus et de serres puissantes. Mais la chouette n'est pas la femelle du hibou. La différence entre les deux ne repose pas réellement sur des critères scientifiques. Dans le langage courant, on appelle hibou la partie des rapaces de la famille des strigidés qui présentent des aigrettes au niveau de la tête. Ces aigrettes ressemblent parfois à des oreilles. Quels sont les rapaces nocturnes que l'on trouve dans notre basse marche ? Le hibou petit duc, de la taille d'un merle, on le voit parfois la nuit chasser des insectes autour des lampadaires. Le hibou moyen duc, haut de plus de 30 cm, il se nourrit de rongeurs et d'oiseaux. Le hibou grand duc est plus rare, il peut atteindre 65-70 cm. La chouette effraie est de la taille d'un pigeon, elle se nourrit de rongeurs et d'oiseaux. Au crépuscule, on la voit passer devant les phares des voitures et dans le grenier, elle fait un raffut terrible avec ses soufflements et ses ronflements. La chouette hulotte a à peu près la même taille et se nourrit elle aussi de rongeurs et d'oiseaux. En vol, elle se distingue par son allure lourde et ses larges ailes arrondies. Dès qu'elle est dérangée, elle se jette sur tout prédateur menaçant sa nichée. La chouette chevêche, encore plus petite, elle se nourrit d'insectes, de rongeurs et d'oiseaux. Souvent visible le jour, perchée, à découvert, elle chasse à l'affût des campagnols ou des lézards. Au sol, elle sautille et avale des vers de terre. Nous allons nous intéresser plus précisément à cette chouette chevêche.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Dans la maisonnée, le bulletin de nos voisins d'Adrier, dans la Vienne, on trouve une étude de la Ligue de protection des oiseaux de la Vienne dans laquelle je vais puiser ces informations sur la chouette chevêche. Quelle que soit l'époque ou sur le territoire sur lequel on ait pu rencontrer la chevêche, l'homme n'est jamais bien loin. Voilà près de 5000 ans qu'est apparue quelque part sur le pourtour méditerranéen celle qu'on surnomme encore la chouette aux yeux d'or. À cette époque, l'Europe de l'Ouest comptait encore une bonne partie de ses paysages envahis de forêts, tandis que la Grèce disposait de paysages ouverts, plus arides et bien plus favorables à la chevêche. C'est ensuite au rythme lent du développement de l'agriculture qu'elle a colonisé la partie nord de son aire actuelle de répartition, à savoir l'Europe, l'Asie centrale et l'Afrique du Nord. Le menu de la chevêche est particulièrement varié. Il se compose d'une palette impressionnante. Gros insectes, vers, petits mammifères, papillons de nuit, chauves-souris, petits oiseaux, araignées, lézards, grenouilles, etc. Le nombre de proies dont elle peut se nourrir est très important, mais ces chiffres impressionnants cachent de nombreuses particularités locales qui varient en fonction de la ressource alimentaire disponible. Dans la plupart des cas, ce sont donc de petits mammifères, musaraignes, souris, mulots, mais surtout campagnols qui composent la plus grande partie de ses repas. Mais puisque la chevêche gère son régime alimentaire en fonction des saisons et de la configuration de son territoire, elle peut, comme c'est le cas dans quelques endroits du sud de la France, adopter une stratégie d'oiseaux quasi entièrement insectivore. Seul point commun à cette apparente capacité d'adaptation, les hivers trop rigoureux. Quelles que soient les régions, ils constituent la menace naturelle la plus forte qui pèse sur les populations de chevêches. Leur impact est tel qu'une longue période de neige ou de froid peut réduire à zéro le nombre de chevêches d'un territoire donné. Qu'en est-il du territoire de la chevêche ? Sédentaire, voire même un tantinet casanière, la chevêche s'installe souvent à proximité des hommes. Le choix d'adopter un territoire se fera selon trois points précis. Premier élément, des zones en herbe rase qui lui servent de terrain de chasse. Peu importe qu'il s'agisse de prairies pâturées par du bétail, de prairies de fauche ou des chemins qui séparent les champs de grandes cultures, l'herbe doit y être rase de sorte à ce que la chevêche puisse repérer visuellement ses proies. Deuxième élément, des perchoirs pour chasser. Ils servent de poste d'affût, c'est son mode de chasse préféré. Posée sur un vieux mur, un piquet, un buisson ou la branche d'une haie, la chevêche guette sa proie. Une fois repérée, elle bondit sur elle, la tuant instantanément de la pression de ses serres. Enfin, le troisième élément de la trilogie, ce sont les cavités pour nicher. Le couple, très fidèle au territoire, y utilisera la même cavité naturelle plusieurs années de suite. C'est au creux d'un arbre têtard, dans les cavités d'un arbre mort, entre les pierres d'une ruine ou d'une vieille grange, que la chevêche installe son nid où trois ou cinq jeunes grandiront. Certaines cavités servent de garde-manger, tandis que d'autres seront utilisées lorsque les premières seront devenues insalubres.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Les couples nicheurs se forment en automne et font preuve d'une fidélité remarquable. La taille de la ponte est influencée par la ressource alimentaire, ce qui fait qu'aux aînés riches en nourriture correspondent des pontes précoces. L'incubation des 3 à 5 œufs revient à la femelle et commence dès la ponte du premier œuf. Elle durera en moyenne 28 jours. Le couple n'élève qu'une nichée par an. Mâles et femelles participent activement au nourrissage en chassant le plus près possible du nid à raison d'une vingtaine de ravitaillements par heure. L'envol des jeunes aura lieu au bout de 30 à 35 jours. Ils quittent leur site de naissance 2 mois après, soit aux environs de septembre. Ils partent alors en quête d'un territoire disponible. Ils seront en âge de procréer dès le printemps suivant. Dans de nombreuses régions, la productivité en nombre de jeunes ne dépasse pas 1 à 2 jeunes, ce qui est insuffisant pour permettre le renouvellement des populations existantes. Les principales causes de la faiblesse de ces chiffres sont la circulation automobile, la raréfaction de la nourriture du fait d'un usage important d'insecticides, la noyade dans les abreuvoirs à bétail, la prédation par les fouines et la chute dans un poteau téléphonique creux ou une cheminée. Dans l'histoire, l'apogée de la chevêche correspond au développement du bocage courant du XVIIIe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle. Mais ensuite, les paysages français vont connaître des modifications considérables par la mécanisation de l'agriculture, l'apparition des engrais, des insecticides, l'exode rural et l'abandon de certaines terres agricoles qui retournent au stade de boisement, l'arrachage en masse des haies et des arbres isolés et la disparition des petits élevages. Les territoires de la chevêche vont se retrouver de plus en plus morcelés, séparés, dégradés, éparpillés. Et cet éparpillement des populations engendre des problèmes de formation de couples et la consanguinité parfois constatée provoque un affaiblissement génétique des nichés et donc une diminution des populations de chevêche. Quelques mots maintenant sur la valeur symbolique de la chouette et du hibou. Dans les croyances populaires, la chouette et le hibou ont une signification négative. En raison de leur mode de vie nocturne, ils fuient la lumière. De leur caractère plus ou moins asocial, de leur vol silencieux, de leur voix, leur cri plaintif, on dit que c'est un oiseau de la mort. Pourtant, les habitants de nos campagnes attribuent toujours à la chouette et au hibou un pouvoir de conjuration des maléfices. D'où la coutume répandue qui consistait donc à la clouer, vivante de préférence, aux portes des granges et des étables, afin de protéger le bétail. Toutes sortes de présages, heureux ou malheureux, sont associés au ululement de cette mélancolique guetteuse selon les maisons qu'elle désigne. Présence d'une femme enceinte, mort proche d'un malade, la chouette apparaît alors comme le messager de la mort, sécheresse à venir, fin de la pluie, ou bien encore l'arrivée des grands froids. Comme si la chouette signalait toujours un changement d'état, qu'il soit atmosphérique ou biologique, dans l'environnement. Deux petits textes de Louis Peignot dans « Bergère éternelle bergère » et de Charles Sylvestre dans « Pleine terre » qui nous parlent du chavant, du chavouin, de la chaouine, du chahuan, donc de la chouette et du hibou, et de leur valeur symbolique dans nos campagnes. Louis Peignot d'abord. La chouette du gros châtain avait des siècles, puisque de tout temps les bergères l'avaient vue voler en silence sous les branches, au fond de cette combe plongée dans une éternelle pénombre. Quand, attardées à la brume, elles entendaient tout près d'elles le cri sinistre du chat-huant, du chavant, alors elles se signaient, et c'est toute tremblante qu'elles abordaient le village dans la crainte d'un malheur survenu en leur absence. Le bon prophète que le chavant. Au temps où les anciens se couchaient à tâtons, sans autre clarté que la lumière mourante des dernières braises du foyer, ils pouvaient rôder dans les courtils sans être incommodés. Un malade était-il dans la chambre? Alors le chalaï s'allumait, et l'oiseau, gêné, intrigué aussi, allait, venait, voltigeait près de la fenêtre éclairée en poussant son cri lugubre pour dire son étonnement et avertir ses compagnons de la nuit. Les malades guérissent quelquefois, ils meurent aussi. Et voilà comment le chavant annonçait une issue fatale, comment il s'était fait au cours des âges une réputation de sonneur de glas. La bergère n'aimait pas l'entendre. C'est sans surprise que le lendemain soir, avant le coucher du soleil, elle écoutait montant du fond de la vallée le grêle tintement de la cloche, la miota dans la paroisse. Quelqu'un venait de mourir. Charles Sylvestre maintenant. La chouette qui niche au creux des arbres foudroyés devine le malheur. Le paysan donne à cet oiseau à lunettes un pouvoir de divination. S'il peut le saisir, il crucifiera le prophète emplumé sur une porte de grange. Du même coup, il pensera qu'il met en croix le mauvais sort.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Dans son recueil Récits de l'ancien temps, Paul Lavergne nous transmet ce curieux récit du chat-huant qui se déroule au domaine de chez Perrault, avec lequel nous allons terminer. Personne n'aime entendre le cri du chat-huant dans la campagne déserte l'hiver, en plein minuit. On dit qu'il porte malheur. C'était la veille de Noël au domaine de chez Perrault. Les femmes, mères, grand-mères et petites filles étaient parties à la messe de minuit. Le grand-père restait seul à la maison. Plutôt que de veiller pour les attendre, il s'était mis au lit. La bûche de Noël brûlait dans la cheminée de la cuisine. Soudain, le vieil homme, à moitié endormi, fut réveillé par le cri du chavant. « Ouhouhou ! Ouhouhou ! » Il crut que c'était un signal, celui des galants venus prendre ses petites filles pour les accompagner à la messe.
« Ouhouhou ! »
Mais elles sont parties, cria-t-il de son lit. Il n'y a pas longtemps, hein. Vous les rattraperez. Le cri recommença.
Ouhouhou, ouhouhou.
Mais je vous dis qu'elles sont parties. Mais encore une fois, les ouhouhou se firent entendre comme s'ils venaient cette fois de l'intérieur de la maison. Le vieillard se leva, enfila ses chaussons et se rendit dans la salle.
Ouhouhou. Ouhouhou !
Fit la voix, si proche et si étrange qu'il en reçut un choc. Cela provenait de la cheminée, de la bûche de Noël exactement. C'était une énorme souche de poirier dans un creux de laquelle s'était établi un chavant. Le feu l'atteignait, l'entrée de la gorle se trouvait bloquée et le chat-huant se plaignait et appelait au secours. Le grand-père tisonna à grands coups de pincette, il retourna la bûche, l'oiseau s'en échappa brusquement, il fit plusieurs fois le tour de la pièce, affolé, agitant en silence ses grandes ailes feutrées, et trouva enfin une issue par la cheminée où il disparut, sous les yeux du vieillard épouvanté, convaincu d'avoir eu affaire au diable. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche, intitulée aujourd'hui « La chouette et le hibou en basse marche ». Pour les textes, nous l'avons fait en compagnie de Paul Lavergne, de Paul Bruzon, de Charles Sylvestre, de Valérie Traqui, de Daniel Gilardeau, de Stéphane Trouba et de Louis Peignot. Pour les accompagnements musicaux, nous avons fait appel au groupe Maluzerne, au compositeur Frédéric Chopin, à l'Orchestre Symphonique de Milan, au chanteur Jacques Douet et Georges Cholon, que nous écoutons en ce moment, interpréter un poème de Baudelaire. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche. À très bientôt donc, et très bonne semaine à vous tous.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Sous les ifs noirs qui les abritent, les hiboux se tiennent rangés, ainsi que des dieux étrangers, dardant l'œil, œil rouge. Ils méditent, sans remuer, ils se tiendront jusqu'à l'heure mélancolique, où poussant le soleil oblique, les ténèbres s'établiront. Leur attitude aux sages enseigne qu'il faut en ce monde qu'ils craignent le tumulte et le mouvement. L'homme ivre du nombre qui passe porte toujours le châtiment d'avoir voulu changer de place. Sous les ifs noirs qui les abritent, les hiboux se tiennent rangés, ainsi que des dieux étrangers, dardant l'œil, œil rouge, ils méditent.